Et c'est le moment pour nous maintenant de lire la parole de Dieu ensemble et d'entendre la voix de Dieu. Et donc je vous invite à trouver dans vos Bibles Philippiens 4, et ce sera sur l'écran aussi, mais si vous avez une autre langue ou une autre traduction que vous préférez, vous pouvez le trouver dans votre Bible. Et comme ça vous pouvez suivre aussi. Donc Philippiens chapitre 4, on arrive donc au dernier chapitre de cette série d'études qu'on a fait pendant ce mois d'août. Et donc ce dernier chapitre 4. Et pour la lecture de la parole de Dieu, je vous invite à vous lever. Donc Philippiens 4, premier verset. C'est pourquoi, frères bien-aimés, que je désire vivement revoir ma joie et ma couronne, demeurez ainsi ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Suntuké à avoir une même pensée dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te demande de les aider. Elles qui sont combattues, qui ont combattu côte à côte avec moi pour l'Évangile, avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur à voir refleurir votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'aviez bien, mais l'occasion vous manquait. Je ne dis pas cela en raison de mes besoins, car j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma tribulation. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, quand j'ai quitté la Macédoine, aucune église, si ce n'est la vôtre, n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous avez été les seuls à le faire, car à Thessalonique déjà, et à deux reprises, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche le don, ce que je recherche, c'est le fruit abondant porté à votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Je suis comblé, ayant reçu par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Christ Jésus. Dieu notre Père, la gloire, à Dieu notre Père, la gloire au siècle des siècles. Amen. Saluez tous les saints en Christ Jésus. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, principalement ceux de la maison de César. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Prions ensemble. Notre Père, nous prions que cette grâce du Seigneur Jésus et que l'Esprit du Seigneur puisse nous remplir maintenant pour que nous puissions recevoir cette parole. Et tout comme Paul a encouragé les Philippiens à imiter Paul, nous prions que tu nous enseignes aussi à imiter Paul en ce qu'il imitait son Sauveur Jésus-Christ. Nous prions que tu nous sanctifies par ta parole et que tu nous aides à te glorifier de plus en plus par nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez prendre place. Il y a une conversation qui a lieu dans quasiment toutes les familles à un moment ou un autre, et que l'on pourrait écrire plus ou moins, mot pour mot, avant qu'elle n'ait lieu. S'il y a un foyer avec des parents et des enfants, cette conversation aura lieu au moins une fois dans la vie de cette famille. Au moins une fois. Et ça passe comme ça. L'enfant dit « Maman, papa, peut-on avoir inséré un animal ici ? Peut-on avoir un chien ? Peut-on avoir un chat ?» Et on n'a pas besoin du don de la prophétie pour savoir exactement ce que ce parent va dire ensuite, n'est-ce pas ? Que dit le parent ? Et qui va s'en occuper ? Il y a toute une différence entre le fait d'atteindre une situation et le fait d'être capable de la gérer, une fois qu'on est dedans. Il y a une différence entre le fait d'atteindre la première position dans une course et le fait de la garder. Une différence entre le fait de se mettre debout et le fait de tenir ferme. Et bien que Paul ait enseigné aux Philippiens tout au long de cet épître comment faire face à une variété de circonstances particulières, et surtout des circonstances difficiles, maintenant, à la fin de sa lettre, il parle de comment gérer toutes les circonstances possibles, et surtout de comment les gérer d'une manière qui soit cohérente avec tout ce qu'il leur a déjà enseigné. Comment gérer toutes circonstances d'une manière qui glorifie le Christ, d'une manière qui exprime l'humilité et l'unité de l'Église, et d'une manière où l'on poursuit pour connaître le Christ de plus en plus. Comment demeurer ferme dans le Seigneur partout? C'est ce qu'il leur demande de faire au premier verset. « Frères bien-aimés, que je désire vivement revoir ma joie et ma couronne, demeurez ainsi ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. » Il vient de leur enseigner comment demeurer ferme face aux faux enseignements, au chapitre 3. Et par ce premier verset, il les exhorte à faire exactement cela. Mais il y a plein d'autres circonstances ordinaires et quotidiennes, qu'elles soient heureuses ou mauvaises, où il faut se demander comment dois-je vivre et comment pourrais-je vivre en tant que chrétien en cette circonstance-là. Eh bien, encore une fois, on a ce même modèle de réflexion qu'on a observé tout au long du livre avec ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut discerner et ce qu'il faut faire. Parce que la prière de Paul pour ses frères et sœurs à la chapelle de Philippe, souvenons-nous, au chapitre 1er, et on a pris ces versets comme les versets clés du livre, la prière, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vrai discernement, qu'ainsi vous sachiez tester ou apprécier ce qui est important, afin d'être sincère et irréprochable pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Grandissez dans l'amour et dans l'unité, grandissez ensemble en tant que corps, pendant que vous grandissez dans la connaissance, de sorte que vous puissiez discerner vos priorités à la base de l'Évangile, et comprendre ce qui est excellent et ainsi faire la bonne chose. Tout au long de la lettre, il veut qu'ils grandissent dans l'unité, dans la communion fraternelle et le partenariat dans l'Évangile. Et nous voyons ici ce qui devrait avoir une place centrale dans nos prières et nos désirs, ce qui devrait être le sujet de nos pensées le samedi soir et dimanche matin en venant au culte, et bien évidemment le reste de la semaine aussi. La communion fraternelle n'est pas quelque chose que l'on a uniquement de nom. Oui, on peut tous faire en sorte que nos noms soient sur la liste des membres de l'Église, mais il faut aussi que cela se vit et se sent et que ça se voit aussi. C'est de l'unité familiale qui se développe et qui grandit. Comment ? C'est pendant que notre connaissance et notre discernement grandissent. Et en suivant le modèle qu'on a suivi tout au long, nous pensons d'abord à la question, quelle est la chose qu'il faut qu'il sache dans ce cas-là, alors ? On a toujours commencé ce qu'il faut savoir, puis discerner, puis faire. Donc d'abord, qu'est-ce qu'il faut savoir ? Et pour résumer ce qu'on a vu jusque-là, au premier chapitre, il leur a demandé de considérer le but de l'Évangile, de savoir où tout cela va nous mener, c'est-à-dire le jour du Christ et sa gloire, un jour planifié dans l'avenir et dont l'arrivée est 100% garantie, le but de l'Évangile. Puis au chapitre 2, il a souligné l'homme de l'Évangile. Il a posé la question, à quoi ressemble l'Évangile? Et on a vu que l'Évangile ne ressemble absolument pas à un tyran hautain, mais il est question d'une condescendance cosmique, une humilité et un service époustouflant. Voilà Jésus, l'homme de l'Évangile. Au chapitre 3, il a médité le contenu de l'Évangile. Il les a invités à connaître les richesses et la supériorité, la valeur extraordinaire de ce qu'ils ont en Christ. Et donc, ayant médité le but, l'homme et le contenu de l'Évangile, la vérité de base qui soutient son enseignement au chapitre 4 est le fondement ou la source de l'Évangile, qu'il souligne particulièrement au verset 19. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Christ Jésus. » Sa richesse avec gloire en Christ Jésus, selon laquelle il pourvoit à tous les besoins. Il les encourage à savoir ce qui rend possible cette bonne nouvelle de Jésus, c'est-à-dire la providence de Dieu, qui se voit particulièrement dans sa richesse et sa gloire en Jésus-Christ. Le petit catéchisme de Westminster, que certains d'entre vous connaissent plutôt bien maintenant, après des études qu'on a faites, il nous explique qu'on peut mettre les œuvres de Dieu dans deux catégories. On a ses œuvres de création et ses œuvres de providence. Et le catéchisme demande à la question 11, les œuvres de providence de Dieu, que sont-elles? Et la réponse, les œuvres de providence de Dieu, très saintes, sages et puissantes, sont celles par lesquelles il préserve et gouverne toutes ses créatures et toutes leurs actions. Ou bien dans le catéchisme de Heidelberg, qu'on a ici à la chapelle de Nesle, la question 27, qui se trouve dans la section du catéchisme qui médite le symbole des apôtres, où on médite sur la première phrase, « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. » Cette question 27 demande « Qu'entends-tu par la providence de Dieu ?» Et la réponse, « La force toute-puissante et partout présente de Dieu, par laquelle il maintient et conduit, comme par la main, le ciel et la terre avec toutes les créatures, de sorte que les herbes et les plantes, la pluie et la sécheresse, les années de fertilité et celles de stérilité, le manger et le boire, la santé et la maladie, la richesse et la pauvreté, bref, toutes choses ne nous viennent pas du hasard, mais de sa main paternelle. C'est Dieu qui préserve et gouverne toutes ses créatures et toutes leurs actions. Et ce qui détermine comment il gouverne la vie de son peuple, ce sont ses richesses dans la gloire en Jésus-Christ. C'est tout ce que le Christ est pour nous et tout ce qu'il a fait pour nous. C'est-à-dire, c'est ça son principe directeur dans tout ce qu'il fait pour nous. Et si c'est le cas, que pourrions-nous, dans un deuxième temps, discerner à la base de cela? Voilà ce qu'on doit savoir, mais que doit-on discerner? Eh bien, pour résumer ce qu'on a discerné dans les autres chapitres, au chapitre 1er, on a appris que le fait de regarder le but de l'Évangile du Christ nous a aidé à voir que nous n'avons pas à nous inquiéter de ce qui nous arrive ou ce qui pourrait nous arriver, car la fin et la gloire ultime de Jésus-Christ, tout ça, c'est déjà garanti. Et puis, au chapitre 2, Le fait de voir le service humble du Christ nous a poussé à considérer les autres comme plus importants que nous-mêmes. Et au chapitre 3, le fait de regarder le contenu glorieux de l'Évangile nous a aidé à comprendre que, en comparaison, tout le reste c'est des ordures. Et le fait de remplacer Jésus ou même d'ajouter quelque chose à Jésus, c'est la folie suprême. Et ici au chapitre 4, lorsque nous regardons le contrôle total et riche et gracieux, glorieux de Dieu sur toute chose, nous discernons que nous pouvons vivre n'importe où. Nous pouvons continuer et persévérer dans n'importe quelle situation. Alors, ce verset classique, peut-être l'un des versets les plus abusés de la Bible, le verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie », ça ne veut pas dire « Puisque je crois en Jésus, je suis capable de faire toutes sortes de choses », donc, puisque j'ai Jésus, je vais réussir mon examen. Ma boîte va gagner plein d'argent. Non, ce n'est pas ça. Ça veut dire que je peux vivre dans n'importe quelle circonstance. Parce que Jésus va me fortifier pour le faire. Comme nous voyons dans les versets 11 et 12. J'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je peux supporter n'importe quelle circonstance, puisque le Christ qui me fortifie est également le Dieu qui contrôle chaque petit détail de mes circonstances, selon sa richesse, avec gloire. Donc par Christ qui me fortifie, je peux vivre dans la pauvreté ou dans la richesse. Si vous allez à la FNAC et vous regardez les livres de développement personnel, j'avoue, je n'ai pas vérifié, mais je peux presque garantir, il n'y aura aucun livre avec le titre « Comment devenir pauvre ». Et même parmi les livres qui parlent de la richesse, il y a probablement pas mal de livres qui parlent de comment devenir riche, peut-être certains sur comment rester riche, mais il n'y a probablement pas de livre qui parle de comment être riche, comment supporter et bien gérer le fait d'être riche, comment éviter le fait d'être corrompu par les occasions et les privilèges que l'on a lorsqu'on est riche. Et il n'y a très probablement aucun livre qui parle de comment être riche ou pauvre à la gloire de Dieu. Mais si Dieu pourvoit à tous mes besoins et s'il gouverne toutes choses selon ses richesses dans la gloire en Jésus-Christ, ce que je discerne à la base de cela, c'est que je peux vivre n'importe où et dans n'importe quelle circonstance. Et j'ai besoin de réfléchir comment faire ça, que je sois pauvre ou riche. Bien évidemment, on pourrait préférer vivre dans certaines circonstances plus que d'autres, et on pourrait aider des gens à mieux vivre ou à avoir des besoins pourvus. Donc les Philippiens ont envoyé des dons à Paul pour que la vie soit plus facile pour lui. Mais par le Christ souverain qui nous fortifie, nous pourrions vivre n'importe où. On connaît tous l'expérience de chercher un appartement ou une maison. Et si on va en ligne sur Se Loger ou PAP, le site demande des critères. Et ça peut être très utile de savoir dans quel genre de bien on aimerait vivre. Et ça peut être utile de savoir dans quel genre de circonstances on aimerait vivre dans la vie en général. Mais l'essentiel, c'est de discerner, puisque Dieu est pour nous, que nous pourrions vivre dans n'importe quelle circonstance. On peut se contenter de l'état où l'on se trouve. Et nous saurons que notre Dieu pourvoira à tous nos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Christ Jésus. Verset 19. Tout cela implique aussi, si l'on regarde au début du chapitre, que je n'ai aucune vraie raison de me brouiller avec mes frères et sœurs. Il n'y a pas de vraie raison d'être rancunier. On ne sait pas ce qu'était ce désaccord entre ces deux femmes, Evodie et Suntuke, mais c'était deux femmes enthousiastes et actives dans l'œuvre de l'Évangile, verset 2. Il n'y a aucune vraie raison pour elles de se disputer, puisque Christ les fortifie. Et Dieu gouverne toutes choses selon sa richesse et sa gloire en Christ. Paul dit donc, Évodie, je t'exhorte, Suntuke, je t'exhorte, ayez une même pensée dans le Seigneur. Ça ne veut pas juste dire tout simplement, mettez-vous d'accord, arrêtez tout ça, et puis je dirai dans le Seigneur parce qu'on est chrétien. Non, mais ayez la même pensée dans le Seigneur. Retrouvez la joie du pardon et de la communion fraternelle, pas juste parce qu'il faut qu'on s'entende bien avec les uns avec les autres, mais du fait qu'elles verront toutes les deux le jour où Christ sera glorifié, chapitre 1, quoi qu'il arrive, et du fait qu'elles ont été toutes les deux servies par ce même Seigneur divin qui s'est humilié pour elles sur la croix et dans la tombe, chapitre 2, et du fait que Christ est tout en tout pour toutes les deux, et que toute autre chose, c'est des ordures, du fait que c'est le même Dieu qui les comble de ses richesses avec gloire en Christ. Il sait bien que c'est le cas pour ces deux femmes, parce qu'elles ont combattu côte à côte avec lui pour l'Évangile. Nous savons tous que si l'on a un désaccord avec, ou de la tension avec un frère ou une sœur en Christ, cela peut être très pénible et très difficile à vivre. Et la solution de Paul ici, c'est de venir aux côtés d'elles et de demander à un collègue aussi qui est sur place de les aider. Et en mettant à côté le problème qui divise ces deux femmes, il n'en parle pas, il les exhorte à se recentrer sur ce partage de pensées dans le Seigneur. Si je suis en désaccord avec quelqu'un, je dois prioritairement méditer le fait que lui et moi, nous avons le même Seigneur. Je dois me rappeler que nous voyons tous les deux le but de l'Évangile et nous verrons tous les deux le jour du Christ. Nous connaissons tous les deux l'homme de l'Évangile qui s'est dépouillé lui-même pour moi et pour lui. Et c'est le contenu glorieux de l'Évangile qui nous motive et qui nous inspire tous les deux, lui et moi. Nous dépendons entièrement du Christ dans ses richesses et sa gloire, tous les deux. Et lui et moi, nous sommes dans le même combat. Pas sur le même champ de bataille, mais l'un contre l'autre, mais on est dans le combat, côte à côte, pour l'Évangile. Contre le mal, contre le péché, contre nos propres péchés, et pour la gloire de Jésus. Je pense que le conseil le plus utile que j'ai jamais entendu sur ce sujet de conflit ou de désaccord, et dans un sens, et qui incarne dans un sens tout ce qu'on voit dans ce chapitre, ça vient du pasteur Stuart Elliott. Peut-être vous connaissez certains de ses livres, peut-être. Il a été pendant longtemps le pasteur d'une église dans un quartier assez chaud dans la ville de Liverpool en Angleterre. Mais pendant une dizaine d'années, il a été pasteur en Suisse aussi, dans une église francophone là-bas. Il habite maintenant au Pays de Galles, et donc, quand j'étais ado, j'ai fréquenté une étude biblique en français, une fois par mois, et parfois c'était lui qui animait cette étude biblique. Et je l'ai souvent entendu dire que si je suis en conflit avec quelqu'un, ma priorité est de prier pour cette personne chaque jour. Prier pour la personne. Pas contre la personne, et pas prier par rapport à la personne et tout ce qui m'agace chez elle, mais vraiment pour la personne. Que Dieu bénisse cette personne. Et je sais très bien que le fait de commencer à faire ça, c'est pas évident. Et tout en prêchant ce message, je dois également m'efforcer à écouter ce message moi-même. Mais il est difficile de rester en conflit avec quelqu'un pour qui je prie tous les jours. Parce que c'est exactement ça, le fait d'avoir la même pensée en Christ. Et comme j'ai dit, ce n'est pas évident. Donc c'est normal qu'il faut souvent quelqu'un qui les aide à faire cela, comme ce fidèle collègue que Paul évoque au verset 3. Ce n'est pas évident de lâcher un conflit. Mais même dans cette circonstance-là, je puis tout par Christ qui me fortifie. Je peux vivre pour la gloire de Jésus, même dans une des circonstances préférées de Satan, le conflit entre frères et sœurs. Même là, il peut me fortifier pour m'en sortir et pour le glorifier. De même, au verset 4, la providence de Dieu, la richesse et la gloire de Dieu nous donnent encore d'autres raisons de nous réjouir dans le Seigneur. Comme je dis la semaine prochaine, quand il dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur », ce n'est pas « Réjouissez-vous et souvenez-vous que vous êtes chrétien », mais « Réjouissez-vous spécifiquement dans le Seigneur ». Trouvez votre joie en lui principalement. Et nous nous réjouissons d'une telle manière que notre douceur ou notre caractère raisonnable ou même notre tolérance ou patience soit vue par tous les hommes, verset 5. Tout le monde voit qu'on est différent parce qu'on se réjouit dans le Seigneur. Et si le Seigneur est proche, même les choses qui sont difficiles ne sont pas vraiment, finalement, un problème. Puisque le Seigneur est proche, réjouissez-vous et soyez raisonnables ou patients. La providence de Dieu implique également que nous n'avons pas à nous inquiéter de quoi que ce soit, verset 6. Si on peut porter tous les problèmes et les besoins au Seigneur, qui est riche et glorieux, et lui demander quoi que ce soit, et le remercier pour toute chose, il n'y a pas besoin de s'inquiéter à ces sujets. Et ce n'est pas que Paul le trouvait facile de ne pas s'inquiéter lui-même, il n'était pas stoïque. Au verset 28 du deuxième chapitre, il dit qu'il a envoyé Épaphrodite aux Philippiens afin que vous vous réjouissiez de le revoir et que je sois moi-même, dans notre traduction, moins triste, mais une meilleure traduction en fait, c'est que je sois moins inquiet. Donc Paul a dû apprendre comment ne pas s'inquiéter. C'est des leçons qu'il a apprises lui-même aussi. Et donc il a appris, verset 5, que si le Seigneur est vraiment proche, s'il est vraiment là, s'il est vraiment aux commandes, s'il contrôle vraiment toutes choses selon sa richesse en gloire dans le Christ Jésus, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Au contraire, nous pouvons tous nous engager vers le Seigneur et connaître la paix qui dépasse toute intelligence, verset 7. Et c'est une paix qui garde nos cœurs et nos esprits. Lorsque des pensées commencent à embêter nos esprits, du genre « regarde ça là, ça ne va pas, il y a un problème. Logiquement, ça ne va pas marcher. Tu cherches l'impossible, ça va jamais marcher ce que tu veux faire. » On peut remettre tout ça au Seigneur et lui faire confiance, puisqu'il est souverain et riche et glorieux. Vous savez peut-être que je viens de déménager, mais vous êtes nombreux à avoir visité l'appartement où j'habitais avant ces deux dernières années avec mon colocataire Joshua. Le processus pour trouver cet appartement-là, ce n'était pas évident. Et trouver un appartement dans Paris, de toute façon, ce n'est pas évident. Mais on voulait un appartement proche d'ici, à Nesle, donc vraiment au centre de Paris. On voulait aussi un appartement suffisamment grand pour recevoir des gens, faire des réunions, des repas, etc. Donc deux missionnaires protestants qui n'ont pas un travail classique et facile à comprendre par des propriétaires, qui cherchent un grand appartement tout au centre de Paris, on pourrait facilement dire que c'est même pas la peine de chercher. Mais ayant partagé ce désir avec des personnes et des églises qui nous soutenaient tous les deux et le cible qui allait avec pour nos recherches de fonds, on a prié et plein d'autres ont prié. Et d'abord, les fonds nécessaires arrivaient. Et le budget qu'on avait visé, c'était vraiment le prix minimum que nous voyons dans les quartiers pour un grand appartement comme ça. Mais on a continué à prier et à chercher. Moi, j'ai passé quelques semaines à chercher sans trop de réussite, mais on a continué à chercher et à prier, et plein d'autres personnes partout dans le monde, vraiment, à prier. Et dans ces situations, il est très facile de devenir stressé, mais c'était le fait que Dieu est souverain qui nous a aidés. Ce que j'ai dû redécouvrir récemment aussi avec mon déménagement. On savait que si le Seigneur voulait qu'on ait un grand appartement au centre, on ne va pas forcément l'avoir tout de suite, mais on va le trouver. Et si on ne trouve pas, c'est parce que le Seigneur a d'autres idées pour nous et ce sera mieux comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on devrait essayer de lire la Providence ou deviner ce que Dieu est en train de faire. J'avais un pasteur qui citait souvent le puritain Jean Flavel, « La Providence, c'est comme de l'hébreu, il vaut mieux la lire à l'envers. » Mais la providence de Dieu nous donnait cette paix. Logiquement, on aurait dû être hyper stressé, ou même dire « c'est pas possible ». Et ça nous arrivait quand même d'être un peu stressé, mais la vérité de la providence de Dieu nous donnait une paix qui dépassait tout ce qui est logique. Ça dépassait l'intelligence. Et dans ce cas-là, le Seigneur était d'accord avec nous, et on a trouvé l'appartement qu'il fallait, et donc on a pu recevoir des gens tout proches d'ici, et c'était pile au budget qu'on avait posé. Mais il aurait été tout aussi souverain et bon si on avait dû chercher plus loin ou ailleurs ou plus petit. Il sait exactement ce dont on a besoin. Donc on n'a pas à s'inquiéter. Et je vous raconte ça non pas pour dire j'ai mérité un grand appartement parce que j'avais de la foi. Pas du tout. C'est le genre de discours qu'on entend parfois par certains soi-disant prédicateurs chrétiens. Mais tout simplement pour dire que si l'on a un besoin, le Seigneur va pourvoir. Et on est nombreux ici à pouvoir raconter comment le Seigneur a fait ça dans nos vies. Le Seigneur ne me permet pas. Si le Seigneur ne me permet pas d'avoir quelque chose, si c'est juste parce que j'en avais pas besoin, même si je pensais en avoir besoin. Parfois, il nous donne plus que mes besoins, mais jamais moins. Il nous donne jamais moins que nos besoins. Il est le Père céleste qui nous donne aujourd'hui et chaque jour le pain de ce jour. Une fois que nous avons discerné que nous pouvons faire face à n'importe quelle situation, que nous pouvons vivre avec n'importe quelle circonstance, donc que faut-il faire? Que faut-il faire? Au début, puisque nous pouvons vivre dans n'importe quelle circonstance, demeurons fermes et demeurons unis. Verset 3, Paul souligne et leur rappelle de leur unité, leur communion fraternelle. Il demande à ce collègue fidèle d'aider Evodie et Suntuke. Cela implique que nous pouvons être unis, alors demeurons unis. Pas demeurons unis dans le concept abstrait de l'Église, mais nous ici, chaque personne ici présente. Je ne vais pas le faire cette semaine, mais les autres semaines, je vous ai demandé de regarder autour de vous dans la salle. Mais soyez conscients des frères et sœurs, c'est avec ces frères et sœurs-là que vous êtes appelés à être unis. Cela implique que nous devons faire confiance à Dieu aussi, en toute chose, compter sur lui pour pouvoir à tous nos besoins, individuellement et en tant qu'Église aussi. Lorsqu'on s'inquiète, on tourne vers lui, on lui confie nos inquiétudes, on prie ensemble. Et individuellement. Et cela implique que nous avons toute une série de bonnes choses à méditer au lieu de nous inquiéter. Le professeur Edmund Clowney a écrit un livre sur la méditation chrétienne. C'était à l'époque où la méditation transcendante était vraiment, vraiment très populaire, surtout aux États-Unis, mais c'est partout. Et on voit encore beaucoup, ça parle beaucoup dans le monde de la méditation. Et il y a une version un peu light, moins mystique, qu'on appelle la pratique de pleine conscience. En anglais, c'est mindfulness. Et là, très souvent, il s'agit de vider l'esprit, vider les pensées. Ou dans la pleine conscience, on se met dans un état de conscience de son état et de ses environs, mais sans rien juger, sans rien évaluer. Mais la vraie méditation chrétienne remplit les esprits de choses que l'on a évaluées et qui sont bonnes. On médite des choses qui sont vraies, honorables, justes, pures, aimables, louables, vertueuses, dignes de louange. La méditation chrétienne ne se concentre pas sur soi, mais sur notre communion avec Dieu, et les uns avec les autres, et s'accomplit dans la louange. Face à l'inquiétude, on ne cherche pas à vider l'esprit, mais à louer le Seigneur. Puis plus tard dans le chapitre, la providence de Dieu implique que nous pouvons être généreux, comme les Philippiens l'avaient été envers Paul. Les Philippiens avaient donné la priorité au fait de s'associer avec lui dans l'œuvre de l'Évangile. Et puis les implications de la providence de Dieu incluent même les petites choses, les toutes petites choses, le fait de prendre soin les uns des autres, et même tout simplement de se saluer les uns les autres. Verset 21. Les versets 21 et 22 font partie de la parole de Dieu, tout comme le reste de la lettre. La salutation, ce n'est pas juste un petit ajout par Paul, parce que c'était normal de les inclure dans une lettre, mais elles sont là parce que c'est la parole de Dieu. Dieu a voulu dire ces choses-là par la main de Paul. Le fait de vivre sous la main attentionnée de notre Père Céleste nous pousse même à faire des petites choses comme saluer nos frères et sœurs, en personne ou par des lettres. Envoyer des petits mots d'encouragement, prendre quelques minutes pour parler avec les frères et sœurs à l'église sans arriver trop en retard et sans quitter trop tôt. Donc pour affronter n'importe quel genre de défi, il faut savoir que Dieu gouverne toutes choses selon sa richesse avec gloire en Christ Jésus. Il faut discerner à la base de cela que l'on peut vivre paisiblement et content dans n'importe quelle circonstance. Et à la base de cela, ce qu'il faut faire confiance à Dieu en toutes choses, s'aimer les uns les autres, dans les petites choses comme dans les grandes choses. Et quel est le résultat de tout cela alors? Verset 20. Gloire à Dieu. Et verset 23. De la grâce du Seigneur Jésus-Christ pour nous tous. Amen. Prions. Notre Père, nous te louons et nous te remercions pour ta richesse avec gloire en Christ Jésus. Te remercions parce que nous pouvons en profiter et en participer en Jésus-Christ, individuellement, mais aussi en tant qu'Église, en tant que frères et sœurs, en tant que famille. Nous prions que tu nous aides à le savoir, à le méditer. Nous prions que tu nous aides à discerner que nous pouvons vivre dans n'importe quelle circonstance. Mais nous prions aussi que tu nous aides à agir à la base de cela pour nous aider les uns les autres, pour nous encourager les uns les autres, pour, si tu nous appelles à participer dans le fait de pouvoir aux besoins des autres, donne-nous des cœurs généreux et aide-nous à voir même dans les petites choses. Tu nous appelles à vivre à la lumière de ta richesse et ta gloire, juste pour prendre soin, se saluer, être en paix et en amour avec nos frères et sœurs. Glorifie-toi parmi nous et glorifie-toi dans le monde par nous aussi. Nous prions toutes ces choses au nom de Jésus. Amen.